Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Mais qu'est-ce qui fait tourner la Terre ?
Un magazine présenté par Gérard.
Bonsoir à tous, eh bien ce soir, mais qu'est-ce qui fait tourner la Terre reçoit l'Aéro Club de Gaillac, l'Aéro Club gaillacois, avec autour de la table Christophe et Marc. Alors messieurs, bonsoir.
Bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs.
Bonsoir à tous.
Alors, Aéro Club du gaillacois, donc on vous entend assez souvent, notamment le week-end tourner dans le ciel gaillacois. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cette association et son implication sur le territoire ?
Oh, d'abord une petite précision, vous nous entendez un peu plus que le week-end, même si effectivement c'est le week-end où nous pouvons gêner le plus de personnes et nous en sommes conscients.
Oh non, vous ne nous gênez pas.
Ah ça c'est gentil.
Moi je trouve que c'est très agréable de voir ces avions voler dans le ciel.
C'est gentil parce que bon, c'est vrai que c'est une de nos préoccupations aussi, hein, c'est de ménager un petit peu tous ceux qui sont riverains, tous ceux qui peuvent être gênés par le bruit des avions. Ceci dit, c'est vrai que donc l'Aéroclub du Gaillacois donc a maintenant dépassé une bonne dizaine d'années puisqu'il a 12 ans à peu près.
Création 2001.
Et cette création 2001, donc est née un petit peu d'une scission ou d'une séparation entre deux clubs qui étaient donc présents sur la plateforme. Après donc l'ancêtre qui était les ailes gaillacoises qui datent des
années 30.
Oui, les premiers conseils, je crois, que sont datés de 1934. Donc, vous voyez que nous sommes les héritiers d'une longue pratique de l'aéronautique sur Gaillac.
Oui, c'est sûr. Alors, en ce qui concerne les membres de l'association actuelle.
Alors, les membres de l'association, Christophe.
Oui, alors actuellement, il y a 84 membres qui sont constitués de 8 femmes.
Loin de la parité, quoi.
Voilà, on est loin de la parité, mais l'aéronautique, effectivement, c'est plutôt un milieu d'hommes. Mais par contre, toutes les femmes sont les bienvenues. C'est un appel. Un appel à l'adhésion en masse des femmes. 8 femmes, et au niveau âge, donc entre 83 ans et 13 ans. Donc chaque personne, il y a des personnes qui volent, des personnes qui volent pas, mais il y a une cinquantaine de personnes qui volent régulièrement, les week-ends et aussi la semaine.
Oui, parce que je me doute qu'à 13 ans, quelle est son implication dans l'association, en fait, à 13 ans ?
Ben là, à 13 ans, disons que c'est une personne qui est en formation et donc qui est inscrite au club, qui a bien entendu tous les diplômes possibles, imaginables, les certificats médicaux qu'on peut imaginer pour pratiquer ce type d'activité sportive. Il a 13 ans, il pourra bientôt voler tout seul dans un périmètre assez petit, puisque bon, il n'aura pas son brevet habituel qui est fixé actuellement à 17 ans. Et donc, mais bon, il peut se former, c'est toujours ça de pris d'avance, c'est-à-dire que lorsqu'il aura l'âge légal le requis pour aller se promener, pour faire des petits voyages ou des grands voyages, ben, il n'aura pas de soucis particuliers. La formation, alors je peux dire une expérience personnelle, c'est que de toute façon, à cet âge, à 13 ans, on apprend mieux que beaucoup plus tard. Ça rentre beaucoup plus vite dans la caboche et les réflexes viennent beaucoup plus vite que lorsqu'on a dépassé un âge, disons, raisonnable, qu'on situe aux alentours de la cinquantaine.
D'accord.
Raisonnable.
Mais à 13 ans, il tient le manche.
Non, il va démarrer tout doucement, hein. Ça se fait progressivement pendant plusieurs années. Donc il va démarrer en binôme avec un instructeur. L'instructeur qui lui a toutes les qualifications requises, les visites médicales, enfin, et qui est bénévole à Gaillac, hein, il faut le savoir. Toute l'instruction se fait gratuitement. Donc les premiers vols, il va prendre conscience de son évolution dans l'air, la troisième dimension. Et puis progressivement, et ben, il va décoller tout seul, il va tenir le manche, et puis il apprendra à atterrir autour d'une quinzaine d'heures, entre 15 et 20 heures. Ensuite, il sera lâché tout seul. Donc tout doucement, il va faire son premier tour de piste tout seul.
Alors à quel âge il pourra effectivement faire son premier tour de piste
14-15 ans.
Ouais, 14-15 ans.
Ouais. 14-15 ans. Ah
ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le brevet de pilote, hein, on peut l'obtenir à 17 ans.
C'est-à-dire oui, pas avant.
Oui, mais c'est beaucoup plus tôt que la voiture. C'est-à-dire que à 17 ans, on a le droit de voler tout seul. Mais quand on a passé son brevet de pilote, c'est-à-dire qu'on a eu une instruction assez longue, hein, 45 heures minimum de vol, dont 10 heures tout seul dans l'avion. Et puis on a passé un théorique également. Et puis on a appris à naviguer et à pas se perdre, puisque comme vous avez pu le constater, on reconnaît plus grand chose là-haut.
Oui, c'est vrai. J'affirme.
C'est sûr que l'avion par rapport à un véhicule terrestre. Ben, vous avez, comme dit Christophe, la troisième dimension. Ça a l'air de rien, mais elle est beaucoup plus compliquée que aller devant, aller derrière, tourner à gauche, tourner à droite. Et là, à partir du moment où vous êtes dans un espace qui, lui, n'a pas de limite, théoriquement, la conduite de la machine en elle-même, mécaniquement, poserait peu de problèmes, sinon un apprentissage sérieux. Mais il est évident que sa situation dans un espace est complètement différente. Elle est dans l'espace, ben vous avez du ciel autour, en haut, en bas, sur le côté, etc. Donc c'est cette notion que doit acquérir l'élève pilote au maximum. Et surtout ne pas être traumatisé par justement ce milieu qui n'est pas un milieu naturel, qui est absolument un milieu qui n'est pas familier à l'homme et qui est un milieu tout à fait artificiel que bon, Icare a créé le premier il y a bien longtemps. Donc ce milieu donc vertical, horizontal, mais dans l'espace, c'est un milieu qu'il faut acquérir. Qui a d'ailleurs des on devrait avoir des réactions différentes dans ce milieu-là que sur un milieu terrestre, que dans un véhicule. Il y a les facteurs humains notamment qui sont beaucoup plus importants. On n'a pas toujours l'impression de monter ou de descendre en avion ou d'aller à gauche ou d'aller à droite alors qu'on y va, tandis que quand on est dans un véhicule, ben on est limité par une route, par des balises, par des feux, etc. C'est tout à fait différent.
Oui, okay. C'est vrai que si on est perdu, on s'arrête en voiture et on regarde la carte ou le GPS, mais là, c'est pas vraiment le cas.
Il est évident que la formation qui est dispensée à Gaillac, donc, comme disait Christophe, par trois moniteurs bénévoles, et donc, doit apprendre à l'élève, justement, un, à ne jamais, jamais stresser, même en cas de difficulté, et surtout à savoir se repérer à l'aide de ses instruments, à l'aide de ses cartes, à l'aide de son expérience, qui viendra petit à petit, de se repérer dans l'espace, et surtout de ne pas avoir cette appréhension d'être perdu. L'esprit humain, là aussi, est très bien fait. À partir du moment où on panique, il y a d'autres réactions qui se passent. On essaie de réagir peut-être beaucoup trop vite à une situation, ce qui est tout à fait défavorable lorsqu'on pilote.
Et puis de toute façon, vous préparez les vols avant de partir.
Bien entendu.
Et il y a une autre chose qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a une réglementation qui est extrêmement drastique et que l'espace est divisé en zones. Et on ne pénètre pas dans certaines zones sans y avoir été autorisé. Donc ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. C'est-à-dire que si on va de Gaillac, je sais pas, au Baléares, eh bien on va être en contact en permanence avec des tours de contrôle. Il faut acquérir aussi le vocabulaire, puisqu'on s'adresse pas à ces gens-là n'importe comment, et savoir à quel moment on doit les appeler, on doit obéir à tout ce qui nous on est obligé d'obéir à
des contraintes
administratives.
Oui.
Et il y a des zones dans lesquelles on ne peut pas pénétrer du tout, qui sont des zones d'interdiction totale, quoi.
Comme Toulouse, je pense.
Non, justement, Toulouse, c'est pas une zone dans laquelle on peut pas pénétrer. C'est une zone dans laquelle on peut pénétrer, mais on doit appeler la tour de contrôle, puisqu'effectivement, il y a d'autres avions et des bien plus gros que les nôtres
qui
arrivent sur l'aéroport de Toulouse. Mais on a le droit d'aller se poser à Toulouse. Par contre, on est obligé de contacter la tour de contrôle de Toulouse. Et tout ça, ça s'apprend. Ce qui fait que pendant l'apprentissage, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à aller dans d'autres aérodromes. Et ça, c'est une grosse partie de l'apprentissage. Et apprendre à communiquer avec tous ces organismes qui sont des organismes bien compliqués. Parce qu'un contrôleur, lui, l'objectif, c'est que ça se passe le plus vite possible. Il a des contraintes commerciales et lui, ça doit aller le plus vite possible. Et nous, petit avion, on ne doit pas le déranger, ou en tout cas au minimum. Et donc, lui se débrouille pour nous caler dans son espace. Mais on a le droit d'aller partout. Les seules zones sur, dans lesquelles on n'a pas le droit d'aller, c'est autour de Paris. La région parisienne, Orly, Roissy et puis le Bourget. Là, on n'est absolument pas autorisé.
Les zones militaires aussi, je pense.
Les zones militaires. Alors, les zones militaires, bien sûr, ben, nous en avons une qui n'est pas très loin de chez nous, hein, qui débute quasiment en forêt de Grésigne. C'est un couloir. C'est un couloir aérien qui peut être emprunté par les appareils de l'armée, qu'elles soient de terre d'ailleurs, de la latte ou de l'armée, ou de l'aviation, hein, ou de la marine, n'importe. Et ces zones
dans
sont...
la marine, ils peuvent passer.
Il
y a eu des exercices d'avions de la marine, puisqu'ils sont là aussi obligés de dans certaines circonstances, disons, de conflits, ils sont obligés de jouer quand même en rasemote ou d'aller très bas. Donc il y a des zones qui sont limitées, qui sont signalées et qui sont très réglementées, qui permettent à des avions de chasse, notamment, ou des avions de transport, ou des avions, nous en avons parlé déjà, ou des avions de transport militaire, qui permettent donc à ces avions d'aller le plus bas possible, c'est-à-dire en environ 300 à 500 pieds sol.
Alors 300 pieds.
Ça fait 500 mètres, disons, grosso modo. Hein, bon. Ou 3, non, oui, ça fait même pas, ça fait 300 mètres. Ben, c'est-à-dire que ces avions, on le voit d'ailleurs sur Gaillac de temps en temps, ces avions passent à très basse altitude pour justement donc faire des exercices, pour déjouer les radars éventuels, etc. Et cette zone qui est située juste au nord de notre terrain d'aviation de Gaillac est une zone réglementée, que nous ne devons pas emprunter à basse altitude ou que nous devons emprunter à très haute altitude pendant les heures d'activité. Tout ceci est signalé, bien entendu, et réglementé. Nous avons les prévisions d'activité de cette zone qui nous empêchent de faire n'importe quoi sur ce type de zone. Et tant mieux pour nous.
Oui, heureusement. On revient un peu sur les membres de l'association, donc 80, je crois.
84.
84, exactement. Et 50 adhérents qui volent. Mais alors, le reste des adhérents, quels sont leurs
activités? Le reste des adhérents, je coupe Christophe 30 secondes. Le reste des adhérents, c'est d'abord des anciens pilotes qui, pour des raisons X, ont décidé soit de voler le moins souvent, soit de voler, donc, s'ils volent le moins souvent, c'est de voler, donc, puisqu'ils n'auront pas, on en parlera tout à l'heure au niveau de la réglementation, c'est de voler que de temps en temps, c'est-à-dire d'assouvir leur passion, mais
de façon,
voilà.
Avec un autre pilote.
Soit des personnes qui ne peuvent, malheureusement, définitivement plus voler en raison d'aptitudes physiques. Nous parlerons tout à l'heure de la visite médicale qui est obligatoire. Ces personnes quand même gardent en eux donc la passion du vol et donc restent parmi nous et ils sont très utiles d'abord au niveau de l'ambiance, ils sont très utiles au niveau des expériences qu'ils ont eues, ils sont très utiles aussi au niveau de toutes les tâches particulières d'un club, c'est-à-dire les tâches administratives d'un club habituel, puisque encore une fois bon le bénévolat,
les travaux nombreux et variés, voilà. Les peintures,
tendre la pelouse, non?
Tondre la
aussi,
piste,
aussi,
bien sûr.
Oui, passer le rouleau.
Régulièrement, passer le rouleau, peindre les V qui signalent la piste, enfin, il y a plein d'activités. Et puis, boire le café avec les jeunes.
Voilà, boire le café avec les jeunes. Bon, vous savez que pour le terrain de Gaillac, donc nous sommes gestionnaires de ce terrain. Tout le terrain ainsi que les installations appartiennent à la mairie de Gaillac. Et donc, nous avons été désignés comme gestionnaires de cette plateforme, à charge pour nous, bien sûr, de l'entretenir, de l'améliorer si possible, et puis d'assurer l'entretien continuel et quasiment annuel, donc, de la piste, comme disait Christophe. Et la piste, ça se dégrade. Hein.
Une piste en herbe, en plus. Hein. À Gaillac, on a pas de piste revêtue, donc ça veut dire qu'il y a un entretien très particulier, c'est-à-dire que dès qu'il pleut, elle est lourde, donc il faut passer le rouleau régulièrement, tondre, ça revient régulièrement aussi, alors quand on a une piste en dur, c'est beaucoup plus facile.
Plus facile, oui.
À entretenir, en tout cas.
On essaiera dans les années qui viennent, je pense que ça viendra, on essaiera de faire, réhabiliter cette piste, c'est-à-dire en fait, grosso modo, de la refaire complètement, moitié par moitié, pour ne pas suspendre l'activité aéronautique. Et nous essaierons de le faire pour justement assurer à tous les avions qui voudront bien atterrir chez nous, donc une qualité de piste aussi valable que celle qui existe actuellement.
Oui, et toujours en pelouse. Hein.
Toujours en pelouse pour l'instant, toujours en pelouse. L'aérodrome le plus proche est celui d'Albil, est en dur, pour certains appareils d'ailleurs qui nécessitent uniquement des pistes en dur. Bon, Albi n'est qu'à 10 minutes de vol de Gaillac. Hein.
Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'année et demie de travaux qui vont avoir lieu, donc par demi-portion, hein, puisque la piste va être faite par demi-portion, seule l'activité des Gaillacois sera autorisée, des avions basés, bon, ce qui nous a embêtés, mais par contre, après, on aura une piste extraordinaire, donc on est obligé.
Oui, parce qu'il faut dire aussi, parce que j'ai eu l'occasion d'aller vous rendre visite il y a peu de temps, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'avions autres que les Gaillacois qui atterrissent ou qui font semblant d'atterrir et qui repartent tout de suite.
Aussi. C'est des exercices. Alors dans le cadre, d'une inter-association de tous les aéroclubs de Midi-Pyrénées, nous ouvrons notre terrain d'abord à tout le monde. Hein, nous ouvrons notre terrain à tout le monde. Sachez qu'à Gaillac, il n'y a pas de taxe d'atterrissage, hein, comme il existe dans d'autres terrains. Donc tous ceux qui le souhaitent peuvent atterrir et décoller de Gaillac, et nous avons quand même des rapports très proches avec tous les autres aéroclubs, les plus proches, Montauban, Groyer, Cahors, etc., Revel, Castelnaudary, au fait qu'ils peuvent venir, avec qui nous avons une certaine complicité, dans la mesure où les problèmes qu'ils ont sont des problèmes associatifs qu'on peut partager nous aussi. Donc il existe notamment un comité départemental dans lequel nous avons voix de chapitre aussi, pour essayer de voir un petit peu les problèmes qui peuvent se poser à d'autres clubs. Et comme vous le savez très bien, le phénomène associatif, c'est un phénomène de gestion quand même très rigoureuse de tout.
De plus en plus.
Et de plus en plus, bien sûr. Et donc, les problèmes qui peuvent se poser ailleurs peuvent se poser chez nous, de même que les nôtres peuvent très bien être partagés par les autres.
Oui. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'aérodrome est ouvert à n'importe qui, pas uniquement aux avions du Tarn ou de Midi-Pyrénées.
Hein. Nous sommes d'accord. Oui, quelqu'un qui fait un Lille-Marseille, il peut très bien se poser.
Oui. Il est ouvert à la CAP, à la circulation aéronautique privée.
Oui, c'est ça, voilà, oui, voilà, bon, c'est privé. Ça. Bon, les militaires peuvent s'y amuser de temps en temps avec leurs propres appareils. On a assisté à quand même des atterrissages de Nord 2501 sur la piste de Gaillac, notamment, alors qu'à l'occasion de manifestations aériennes ou à l'occasion d'épreuves sportives militaires. Et c'est vrai que cette piste fait 1200 mètres, donc elle correspond déjà à une grande catégorie d'avions moyens. Je ne parle pas, des avions plus importants, style 747 ou
380. Oui, il ne se posera jamais à Gaillac. Ou alors s'il se pose, ça sera vraiment...
Ils feront un petit toucher rapide. Il faut quand même avertir à ce moment-là les riverains qu'ils auront un gros bébé au-dessus d'eux. Hein.
Il y a un DC-3 qui s'est posé l'année dernière, un ancien DC-3 de Air France KLM qui s'est posé l'année dernière et qui a séjourné sur Gaillac.
Et c'est par accident ou c'était...
Non, pas du tout, c'était volontaire. Je crois que le commandant de bord avait été formé sur Gaillac.
Voilà, il y a des anciens qui viennent nous rendre visite, comme dit Christophe, c'est sûr que c'est très bien. Beaucoup d'ailleurs de pilotes privés finissent dans une carrière aéronautique. Intéressante, puisque certains sont pilotes d'Airbus, qu'ils soient 320 ou autres. D'autres ont subi des formations de pilotes militaires, d'autres de pilotes de largage de parachutistes. C'est vrai que la formation de base, la modeste formation que nous avons, peut permettre à une jeune personne, bien sûr, quand même, il faut d'aller beaucoup plus loin dans sa formation aéronautique. Et nous remarquons que beaucoup de jeunes de l'âge dont nous parlions avec Christophe, c'est-à-dire de 13 à 15 ans, leur but c'est de suivre une carrière aéronautique, d'être pilote de chasse.
Oui, c'est vrai que c'est des métiers qui font rêver. Hein.
Voilà.
Tout petit, on est pompier, mais après, on est.
C'est important.
Alors, on est aviateur.
Ouais. Alors là, il y a un jeune justement qu'on a eu samedi. Alors c'était assez rigolo parce que il est boursier d'une association qui s'appelle les Vieilles Tiges, qui en fait est un regroupement de pilotes professionnels qui date de la Première Guerre mondiale. Hein.
Comme leur nom l'indique.
Voilà, comme leur nom l'indique, les Vieilles Tiges. Et ces gens-là ont comme vocation à aider les jeunes. Et il y a un des jeunes gaillacois, un de nos jeunes, qui a 17-18 ans et qui a reçu une bourse pour pouvoir poursuivre et financer une partie de son brevet de pilote. Et ce garçon-là, normalement, est fait maths sup et maths spé, et normalement essaiera d'intégrer l'ENAC, donc qui est l'école nationale aéronautique à Toulouse, pour devenir pilote professionnel et certainement piloter des gros avions.
Mais est évident que la formation de pilote professionnel est une formation très onéreuse. C'est une formation qui demande effectivement des capacités de financement assez importantes, soit de la part de celui qui veut la suivre, soit de la part de ses parents. C'est pas une formation très simple au point de vue financier quand même.
Oui,
hein. C'est une formation qui demande beaucoup d'heures de pratique, et comme on le disait tout à l'heure, la pratique, c'est faire de l'avion, et ils ont effectivement des avions qui consomment beaucoup plus et qui coûtent beaucoup plus cher que les nôtres. Et là, c'est une formation qui en plus se déroule sur plusieurs années. Il vaut mieux éviter l'échec à la fin, parce que là, financièrement, ça fait mal.
Non, parce que tu as fait un chèque avant.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Alors, il y a des écoles de formation.
Ouais, et donc, les jeunes commencent souvent en aéroclub. Hein.
Voilà.
Ce qui peut leur servir de se conforter dans la profession.
Bien sûr. En fait. Absolument.
Absolument. Bien sûr.
Donc, c'est un début pour beaucoup de jeunes, hein, l'aéroclub.
Alors, on parlait des avions, justement. Qu'est-ce que vous avez, de quoi se compose la flotte?
Christophe, il a l'affiche sous les yeux, donc on en a quatre.
On a quatre petits avions. On a des avions plus ou moins puissants, un Rallye MS-150 ST, donc un Rallye qui est un avion qui date des années 70, qui est souvent le premier avion sur lequel on commence, qui est un avion qui pardonne beaucoup, donc qui est et sur lequel on apprend à décoller, à atterrir, et puis les premières navigations. Donc ça, c'est souvent l'avion d'école. On a un deuxième avion qui est, lui, un avion de voyage, donc beaucoup plus puissant, qui fait 180 chevaux, qui est, une fois qu'on a eu son brevet, qui nous permet d'aller en Corse, au Baléares, en Croatie, en Grèce, entre autres. Ensuite, on a un avion, un petit dernier, qu'on a acquis l'année dernière, qui lui est un autre rallye, mais qui en fait a une hélice à pas variable, donc une technologie un peu différente. Et puis l'autre avion, le dernier, le quatrième, c'est le DR400, donc c'est un avion en toile et en bois, tous les autres étant des avions métalliques, et qui lui n'appartient pas à l'aéroclub de Gaillac, mais appartient à l'aéroclub des électriciens et gaziers. Et donc celui-là a été acheté l'année dernière, et par contre on peut l'utiliser comme un avion de Gaillac.
Voilà, bon, ce sont des avions, dans chaque avion, ce sont des avions 4 places. 4 places qui ont une autonomie un peu différente selon le type dont vient de parler Christophe, mais qui permettent effectivement de faire de très grands trajets. Il faut savoir que des terrains où on peut ravitailler sont, parce que le seul problème est là, hein, mauvais temps ou avitaillement. Mauvais temps, vaut mieux pas y aller. Et puis avitaillement, c'est préparer sa course sans vouloir donc employer des mots faux. C'est préparer donc son vol à l'avance. Et c'est vrai que tout le travail qui est fait au sol, tout le travail qu'on fait avant, vous permet d'avoir l'esprit libre pour piloter votre avion.
Oui, c'est ça. Les grands voyages, faut prévoir les ravitaillements.
Les grands voyages, faut tout prévoir.
Parce que les ravitaillements ne se passent pas à Groyeil, il n'y a pas de possibilité de ravitaillement. Enfin, ça, on en reparlera peut-être après.
On en reparlera tout à l'heure.
Alors, il y a effectivement, Groyeil encore, c'est proche, mais enfin, effectivement, il y a des terrains où, vous avez des terrains où, d'abord, l'essence est beaucoup plus chère ou moins chère qu'ici, en fonction du pays que vous traversez. Il y a des horaires à respecter dans sur certains terrains qui avitaillent. Donc à partir du moment où vous faites un voyage, Christophe parlait tout à l'heure des Baléares, pour aller aux Baléares, il faut avitailler au moins une fois. Pour d'autres voyages, si vous traversez l'Espagne, il faut avitailler au minimum avant de quitter l'Espagne et d'attaquer le détroit de Gibraltar si vous allez au Maroc. Donc il y a toujours des contraintes. Ces contraintes doivent être préparées à l'avance, bien entendu, pour pas se faire surprendre, étant entendu qu'un des accidents les plus communs, quand même, c'est la panne sèche. C'est une panne sèche, il y a 2 ans, il y a bien un avion qui a atterri sur l'autoroute entre Carcassonne et Toulouse, en panne sèche.
S'il atterrit, c'est déjà moindre mal.
C'est un moindre mal, sauf qu'il atterrit sur une autoroute, donc...
Il en redécolle le lendemain, je crois.
Je sais pas s'il a toujours sa licence de pilote, parce que le problème est là, quoi.
Est-ce qu'il avait son ticket pour sortir du péage?
Tout à fait, bon, je pense qu'il l'avait. De toute façon, s'il l'avait pas, bon, je ne sais plus.
La maréchaussée s'était chargée de venir en donner un.
Ça peut poser problème.
C'est sûr. Je vous propose une pause musicale. Christophe nous a amené Noir Désir.
Ben oui, Noir Désir se sépare, donc je me suis dit, j'ai pas résisté, j'ai amené un disque.
C'est très, très sympa. Merci bien, on l'écoute et on reprend notre émission tout de suite derrière.
Des méandres creux des reins, et tout ira bien loin.
merci Christophe pour cet extrait musical de Noir Désir. C'est vrai que maintenant ça va être relayé aux antiquités, on va dire. Non, peut-être pas quand même. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose qu'on ne verra plus maintenant. Bon, on revient à notre émission, mais qu'est-ce qui fait tourner la Terre, où je vous rappelle, j'accueille l'aéroclub de Gaillacois avec Christophe et Marc. Alors nous parlions tout à l'heure des problèmes de ravitaillement et je voulais justement parler des problèmes d'essence en ce qui concerne l'aérodrome de Gaillac.
Ben, le problème d'essence est un problème très simple. Nous sommes de plus en plus maintenant contraints par une réglementation qui se veut européenne. La réglementation européenne est très simple. Toutes les stations qui sont destinées à recevoir du carburant doivent être progressivement mises aux normes européennes. Alors, ce qui signifie que nombre d'aéroclubs, dont le nôtre, nous avons des installations de stockage d'essence, puisque nous délivrons de l'essence pour les aéronefs. Et ces installations pour l'instant, elles ne le sont pas tout à fait définitivement, seront progressivement mises hors normes. Conclusion, il faudra remettre ces installations aux normes, ce qui revient grosso modo à reconstruire une station de distribution de carburant sur l'aéroclub du Gaillacois. Alors, cette échéance, qui est une échéance relativement proche, puisque nous pouvons penser que en fin 2011, il faudra que nous ayons pris toutes nos dispositions, se pose un problème financier. Il est évident qu'une nouvelle station d'essence ou un réaménagement de l'ancienne, ce qui sera beaucoup plus difficile, est toujours quand même onéreux. Donc nous avons de ce côté-là quand même un partenaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle la mairie de Gaillac. Il est évident que la mairie de Gaillac nous aidera soit à se porter garant pour un prêt, si nous devons faire un prêt, pour donc réaménager toute notre station de distribution d'essence, sous peine de ne plus pouvoir distribuer l'essence, y compris le propre avion.
Ça revient à dire qu'il faut que ça soit une cuve à double paroi ou quelque chose
comme ça. Voilà. Bon, alors techniquement, effectivement, la réglementation européenne demande une cuve à double paroi avec un système d'élimination des éventuelles déjections de carburant, que ce soit du carburant qui vient des avions, un trop-plein par exemple, ou que ce soit des fuites. Grosso modo, si vous voulez le fin mot, c'est un mot à la mode, mais enfin, il s'applique aussi à nous. C'est effectivement de ne pas du tout polluer le sous-sol de ce terrain de longue vie. Mmh. Et là, c'est un problème. Alors, nous y avons pensé depuis longtemps. Nous avons essayé de faire des provisions pour prévoir donc ce changement des cuves, ou du moins cet aménagement partiel des cuves, puisque en fait les cuves, il faudra les changer. Et puis là aussi, nous faisons appel aux bénévolats, c'est-à-dire que nous serons là peut-être pour manier un tractopelle selon ses spécialités à aider pour assumer du moins un coût le plus bas possible pour cette remise aux normes des installations. Et c'est vrai, vous avez cité Croyer tout à l'heure, c'est vrai que tous les clubs de la région vont être progressivement soumis à la même réglementation. Ils sont soumis à la même chose, mais progressivement ils devront mettre aux normes, effectivement. Alors Albi l'a fait, mais enfin Albi est une plateforme un peu plus polyvalente que la nôtre, puisque il y a quelques temps ils acceptaient encore des vols réguliers. Voilà. Alors c'est effectivement un problème important qui nous demandera d'avoir une gestion beaucoup plus stricte de tout, sans pénaliser effectivement ceux qui pratiquent l'avion, puisque là aussi le coût est assez élevé déjà pour l'instant. Christophe vous en parlera peut-être tout à l'heure,
sûr.
Mais il est déjà élevé, quoique le plus bas parmi tout le sud, comme on l'a dit. Mais c'est évident, on essaie de ne pas augmenter artificiellement, ou du moins de façon délibérée, le prix de l'heure de vol, étant entendu que nous savons très bien que tous ceux qui volent, chacun à leur façon, font un petit sacrifice en fonction d'autres loisirs qu'ils pourraient exercer.
Oui, parce qu'on pourrait penser, on va en reparler tout à l'heure d'ailleurs, mais on pourrait penser que c'est une passion qui est chère, mais on va essayer d'expliquer qu'en fait ce n'est pas si cher que ça. On va parler formation peut-être maintenant, et donc en ce qui concerne les formations, de pouvoir avoir son brevet, qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça? Est-ce qu'il y a des formateurs, des moniteurs,
formateurs? Trois instructeurs.
Instructeurs.
Oui, absolument. Trois instructeurs bénévoles. puisque en fait tout est bénévole à Gaillac. Donc il y a trois instructeurs qui sont très très disponibles. C'est ce qui fait aussi que la formation peut être relativement courte. Courte étant à peu près un an et demi, hein. Entre un an et demi et puis X années selon les personnes.
Oui.
Donc, en fait, on les appelle, on prend rendez-vous et puis on est parti pour une heure ou une heure et demie.
Là, vous avez presque la parité en fait, puisqu'il
y a
quand même une femme.
Une femme instructrice, une instructrice et deux instructeurs, effectivement, qui ne sont pas des professionnels, qui sont pas des professionnels de l'aéronautique. Hein. Par contre, c'est des professionnels de l'instruction puisqu'ils ont,
ils ont des brevets
pour ça. Effectivement. Donc une femme et deux hommes. Donc.
Alors comment ça peut se passer un peu pour obtenir ce brevet?
Ben disons donc après une inscription en club, après la volonté d'un élève de vouloir devenir pilote un jour. Ben c'est simple, on va lui affecter un instructeur qui va prendre rendez-vous avec lui pour la première fois. Pour les premières heures vont être surtout une découverte un petit peu de ce milieu dont on disait tout à l'heure qu'il n'était pas tout à fait naturel à l'homme. C'est-à-dire en fait, très rapidement d'ailleurs, monter dans un avion, voir un petit peu comment se comporte l'avion dans le ciel avec quelqu'un à côté de lui, bien sûr, qui sera instructeur et qui lui donnera en fait l'envie de le faire tout seul. L'envie de le faire tout seul, quel que soit son âge. Comme l'a dit Christophe, ça peut demander du temps parce que je crois que bon, on a toujours tous les cerveaux sont pas faits de la même façon. Il y en a qui réagissent très vite, d'autres qui réagissent plus lentement. Il y en a qui réfléchissent trop, d'autres qui réfléchissent pas assez. Je ne sais pas.
En ce qui concerne l'envie d'aller plus loin, moi je peux vous garantir que ça marche tout de suite. Moi j'ai eu l'occasion avec Christophe de faire un petit tour la semaine dernière. C'était la semaine dernière, oui.
Dimanche.
Et en fait, oui.
Donc il faut que je prenne votre cotisation des adhésions ou.
Bon, j'en parlerai à ma femme.
D'accord. Non, mais voilà. Bon, c'est d'abord la découverte du ciel. Vous savez qu'il y avait un proverbe un peu, on l'employait dans les parachutistes, on disait mais enfin un petit homme, t'es tout petit, pourquoi tu veux voler? Et puis le petit homme répondait, c'est en anglais, mais c'est plus joli en anglais d'ailleurs. Il disait mais oui, mais le ciel m'appelle, c'est tout. J'ai rien à dire d'autre quoi.
Oui.
Voilà. Alors c'est un peu la même chose. Je crois qu'il y a de l'envie d'aller au-dessus du plancher des vaches. Ensuite maîtriser une machine. Et ensuite, comme disait Christophe, aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire savoir se déplacer, savoir aller plus loin, et puis un jour, le faire tout seul. Alors là, je vous dis, on y est tous passés, il y a une montée d'adrénaline assez importante, hein. On fait pas toujours que des choses bien, on commet quelques bêtises au départ, et puis ensuite, on les fera plus, on les fait plus, ou du moins l'expérience arrive. C'est ça. Et cet instructeur va nous suivre pendant des dizaines et des dizaines d'heures. Il va nous suivre tout le temps, il va nous corriger nos erreurs, il va nous engueuler quand il faut nous engueuler, il va nous encourager lorsqu'il faut nous encourager, il va être avec nous. En fait, ça sera, si vous voulez, notre professeur, notre deuxième
mentor.
Papa, notre mentor, durant toute notre formation, jusqu'au moment où, effectivement, on va être tout seul. Et puis ensuite tout seul et avec un examinateur. Alors Christophe, si tu veux l'examinateur, c'est l'épreuve reine. Après des épreuves théoriques
alors,
dont on
parlera
très bien.
De manière générale, quand on arrive à l'examen, c'est qu'on est prêt. Hein. L'instructeur ne présente pas n'importe quel élève.
C'est quelqu'un donc qui vient de l'extérieur.
Tout à fait. C'est quelqu'un qui est formateur, examinateur.
Voilà.
Donc c'est lui.
Comme le permis de conduire.
Voilà. C'est lui qui exactement. C'est un inspecteur. Donc c'est lui qui vient valider que tout ce qu'on a appris pendant des années est vraiment bon, et c'est lui qui délivre le petit papier rose qui
le papier
est pas rose,
qui nous permet d'avoir notre permis.
Et voilà, on a le permis de conduire, et là et en fait c'est là que tout commence.
C'est vrai, c'est le début d'une grande aventure. Alors il y a quelque chose de particulier quand même dans la formation. Enfin, vous pouvez donner des formations à des gens à mobilité réduite, et je trouve que c'est vraiment exceptionnel sur le Gaillacois, je crois.
Oui, on a un appareil qui est équipé pour que les pilotes handicapés puissent piloter. Donc, en général, évidemment, il faut avoir des mains qui soient valides. Hein,
bien sûr.
Il faut être.
Oui.
Il est équipé d'un malonnier. Donc c'est une espèce de manette sur laquelle il tire pour actionner les pédales qui normalement doivent être actionnées avec les pieds.
Oui.
Et il y a très peu d'avions en France qui sont équipés de malonniers. Et donc il y a des handicapés qui volent chez nous effectivement et qui sont brevetés et qui viennent voler et puis naviguer et qui retrouvent un peu de de liberté en l'air.
Cet esprit, oui, bien sûr.
Voilà, là, c'est vrai que bon, c'est un aspect de l'aéroclub du Gaillacois bon, qui est assez remarquable. Puisque les mêmes formateurs vont former effectivement des pilotes qui ont malheureusement n'ont pas été servis par des accidents ou autre chose. Et puis ces pilotes ben, vont faire le même cursus que les autres. La seule chose qu'on leur demande, c'est de pouvoir monter dans un avion tout seul et en descendre tout seul, pour des raisons évidentes.
Mais il y a toujours quelqu'un qui est près de...
toujours quelqu'un, puis ensuite ils seront tout seuls.
C'est quand même assez fabuleux ça.
Ils sont heureux, je peux
c'est
vous
vrai
dire
qu'ils
sont heureux.
La semaine dernière, vous avez assisté au décollage d'un monsieur qui est handicapé, voilà. Effectivement.
C'est vrai que c'est...
Vous savez que c'est une victoire sur eux-mêmes, déjà.
Oui.
Et en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, les plus motivés, c'est peut-être eux. Hein. Et ils ont vaincu un des défauts de la vie. Et je vous jure que ils sont peut-être beaucoup plus mordu que des personnes qui sont, entre guillemets, plus valides qu'eux. Quoi.
Oui, tout à fait. L'association et le tourisme, si on pouvait en dire quelques mots, alors qu'est-ce que vous pouvez faire comme manifestation pour, je dirais vulgairement, amener de l'argent un petit peu l'association?
Alors, il y a des manifestations qui sont organisées chaque année, comme le survol des vignes au moment de la fête des vins.
Oui.
Les gens viennent et font un survol des vignes. Et puis, sinon, il y a des baptêmes de l'air toute l'année. Donc, on appelle ça un vol d'initiation. Alors, attention, il peut durer qu'une demi-heure. Donc, ça, c'est réglementairement, on est soumis à ça. C'est un vol qui peut durer qu'une demi-heure, mais qui nous permet de faire un petit vol au-dessus de Albi ou jusqu'à Puy-Celles-ci et découvrir l'aéronautique.
Une personne qui voudrait voler une heure, c'est pas possible?
Non,
pour l'instant, non, nous ne pouvons pas. Nous sommes encore tenus par une réglementation. Bon, il faut savoir que là, bon, ce ne sont pas seulement des pilotes, disons, les pilotes instructeurs qui peuvent faire ce type de vol, mais nous avons une réglementation qui oblige donc des pilotes à avoir un certain nombre d'heures, assez important d'ailleurs, un certain nombre d'heures pour pouvoir donc prendre des personnes et leur proposer des baptêmes de l'air ou de ce qu'on appelle des vols d'initiation. Pourquoi une demi-heure? Parce qu'au-delà d'une demi-heure, ça devient du professionnel, donc du commercial. On l'a dit tout à l'heure, nous sommes une association. Et une association est tenue à des règles associatives, c'est-à-dire que là, nous sommes tenus par la réglementation aéronautique à des vols maximum d'une demi-heure.
Sinon, c'est considéré comme du travail aérien, voilà. En fait. Et on fait de la concurrence à des sociétés qui sont spécialisées dans ça.
Ceci dit, bon, une demi-heure, c'est un aller-retour tranquillement pour Cordes et retour par les Bastides, du moins, c'est par le château de Salette ou ailleurs.
Oui, c'est ça, ça permet.
Bon, donc, c'est vrai que ça permet, c'est bien le terme d'initiation. Et c'est sous la responsabilité de ceux qui pilotent, bien entendu, de ne pas dépasser ce type de, ce nombre de minutes.
Alors attention à ne pas confondre vol d'initiation avec promenade avec des amis. Hein. C'est-à-dire que moi, en tant que pilote, j'ai le droit, bien évidemment, de transporter des passagers.
Bien entendu.
Donc j'ai le droit de transporter 3 passagers puisqu'il y a 3 places de libre. Je laisserai pas ma place à quelqu'un d'autre. donc je transporte des passagers régulièrement et des gens qui volent avec moi sans
rémunération.
Sans rémunération.
Voilà.
J'ai le droit de partager les frais effectivement avec une personne que je connais, mais je n'ai pas le droit il faut que je participe, que j'amène ma part.
D'accord.
Voilà. Donc ce n'est pas considéré comme de la rémunération.
Oui, là c'est sûr que vous pouvez, bon, à partir du moment où vous êtes pilote, vous pouvez prendre des amis, vous pouvez prendre une partie de votre famille, aller faire des balades où vous voulez, il n'y a pas de souci.
Les emmener en vacances.
Voilà.
Par exemple.
Les amener en vacances ou on n'est pas obligé de prendre sa famille, on peut prendre autre chose, mais bon. Mais c'est comme ça. Oui, non, mais donc je vous vois sourire.
On parlait de s'envoyer en l'air.
Cela ne nous regarde pas.
Ce sont des avions de 4 places.
D'accord. Voilà. Oui. Donc, partir de 3, ça commence à être bon. Enfin, oui, bref, revenons. Alors, on arrive en période de fête. Est-ce que c'est possible d'offrir un baptême de l'air à quelqu'un?
Mais bien sûr. Bien, sans aucun problème.
C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Enfin,
bon, on n'y pense pas assez. Bon, c'est sûr qu'il faudra tout à l'heure redonner les coordonnées du club. Il est évident que nous essayons au maximum d'être présents dans ce club pour répondre à tous les appels téléphoniques. Et il est évident que toute personne qui voudrait faire un petit séjour, une petite balade sur le vignoble gaillacois, y compris à cette époque de l'année, puisque effectivement il y a de la neige un peu partout sur le nord, À ce moment-là, bon, bah on donnera les coordonnées tout à l'heure.
Voilà, vous composez le 05 63 57 98 52.
On le répète.
05 63 57 98 52. Et il y a un répondeur, donc vous pouvez laisser un message et on vous rappelle dès que possible.
De toute façon, sur Internet, c'est Aéroclub du Gaillacois sur le moteur de recherche Google.
Ça suffit. Aéroclub du Gaillacois, vous avez toutes les coordonnées d'Aéroclub.
Voilà. Alors, on peut, est-ce que ça serait indiscret de vous demander combien peut coûter un baptême de l'air comme ça si quelqu'un veut faire un cadeau? Parce qu'en fait, ça peut...
C'est pas compliqué. Écoutez, il faut compter 50 euros pour tous les passagers qui sont dans l'avion pour une durée d'une demi-heure. Si vous êtes tout seul, c'est 50 euros. Si vous êtes trois, ben vous divisez 50 par 3. C'est à peu près le prix moyen, actuellement du baptême.
Il
du baptême.
Que c'est 60.
Hein, 60 même, bon. Ouais. Alors disons 60.
Oui, 60. Depuis que Christophe prend 10 euros.
Oui, depuis que Christophe fait partie du pool comptabilité, c'est dur. Bon, disons 60. Bon, 60 pour 3 personnes au maximum, bien sûr.
Oui, donc ça reste quand même très
euros par
raisonnable.
Personne.
Pour un vol d'une demi-heure.
Voilà. Je tenais à ce que ça soit précisé, parce qu'en fait,
c'est vrai.
Et puis ça peut être vraiment un cadeau de fin d'année super sympa, puis original.
C'est assez pratiqué pour l'instant, peut-être pas suffisamment, mais enfin, effectivement, ça peut être un très joli cadeau de fin d'année.
Un cadeau de mariage.
Oui, où nous avons encore de beaux jours devant nous, quand même, oui.
Très bien. L'avion, un moyen de transport, peut-être, est-ce que vous avez aussi des opportunités pour emmener des gens quelque part relativement loin? Est-ce que c'est possible, ça? Si, mettons, moi, je vous demande, je veux aller à Lyon demain.
Avec les critères dont vous a parlé Christophe, la réponse est a priori non, si c'est effectivement moyennant une rémunération de ce vol.
D'accord, donc le voyage.
Maintenant, si Christophe veut vous inviter à aller au Baléares, il peut vous inviter demain matin à partir très tôt au Baléares, si la météo le permet, bien entendu.
Vous faites quoi ce week-end?
Voilà. Bon, c'est ça. Voilà. Le problème est là, hein. Nous ne sommes pas des professionnels. Nous ne faisons pas de travail aérien. Personne ne peut nous dire, y compris le fisc, que nous avons des ressources particulières cette activité.
Vous restez associatif.
Et il y a la contrainte météo, hein, qui est une contrainte importante, puisqu'elle génère, elle génère effectivement chaque année des morts, hein, puisque en fait, les conditions climatiques, quand on est pris dans un nuage et qu'on... Nous, on fait du vol à vue, hein, on ne fait pas du vol aux instruments, et on n'a pas le droit d'aller dans les nuages réglementairement. Donc il y a des morts chaque année de gens qui veulent absolument arriver à destination. Donc ça
y compris des personnes extrêmement douées ou avec énormément d'expérience, puisque bon, ben il y a le champion de France et du monde de voltige,
Renaud Ecal, qui s'est tué
avec sa femme et son enfant bêtement à cause de mauvais temps.
Et si des auditeurs veulent vous aider en devenant adhérent, peut-être ça peut être utile aussi de savoir le prix de l'adhésion.
Alors, pour les plus de 25 ans, la cotisation à l'aéroclub, c'est 50 euros. Pour les moins de 25 ans, c'est 20 euros. Et là-dessus, on prélève également, puisqu'on est adhérent à la Fédération française d'aéronautique, le prix d'une licence qui est de 64 euros. Alors, si on veut voler, hein, on peut devenir adhérent de l'aéroclub du Gaillacois sans être adhérent de la Fédération française d'aéronautique.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc, il faut savoir que l'année commence au 1er janvier, hein, c'est-à-dire que bon, pour quelqu'un qui prendrait son adhésion au mois de septembre-octobre, bon, ben, il est évident que nous ne le prendrions en compte qu'au 1er janvier de l'année d'après.
Oui, comme là.
Voilà.
Maintenant, demain, on entame décembre déjà. Hein.
Bien sûr, mais nous appelons tous ceux qui le souhaitent, on va prendre contact avec nous sur ce point.
Surtout les femmes.
Juste, Marc, juste deux petits mots sur le TAG, puisque vous faites partie du TAG. Juste deux petits mots, parce que voilà, déjà à la fin de l'émission.
Bien, écoutez, oui, association pour association, ben, c'est vrai que nous sommes pas loin d'ailleurs des locaux actuels de tourisme animation Gaillac, hein. Donc je fais partie de TAG depuis très peu de temps d'ailleurs. Je crois que je termine notre première année. Et effectivement, donc TAG va reprendre toutes ses activités pour l'année prochaine, et notamment les apéro-concerts qu'on connaît bien. En essayant d'avoir le plus de personnes possible pour nous aider, puisque comme vous savez, il y a des dames qui étaient donc adhérentes au plus haut point de TAG et qui ont bénéficié de ce qu'on appelle d'une retraite bien méritée.
Je vous propose de refaire une émission avec vous en ce qui concerne le TAG, pourquoi pas.
Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci.
Ce sera toujours avec plaisir.
Ah oui, moi aussi, avec grand plaisir.
Christophe et Marc, je vous remercie. C'était une émission très intéressante. Quand Quant à moi, bah, je vous retrouverai dans 15 jours, mais qu'est-ce qui fait tourner la Terre? Pas d'émission la semaine prochaine. Et donc, dans 15 jours, je vous retrouverai. En attendant, vous retrouvez à 21h30 Air Metal ce soir. Et je remercie Mathias, bien sûr, d'avoir assuré la technique. Encore merci beaucoup, Marc et Christophe.
Merci à vous.
À une prochaine fois. N'hésitez pas, quand vous avez une manifestation, de nous avertir de manière à ce qu'on l'annonce sur les ondes d'Air d'Otan. Je vous remercie. Vous retrouve dans 15 jours. Bonne semaine à tous.
Merci à vous.
Au revoir.